Salutations de l'Église protestante évangélique de Binche. C'est gentil aux anciens de cette Église de penser à probablement la plus petite Église de l'association et une des toutes nouvelles Églises dans l'association, celle de Binche. Donc, chaleureuse salutation de l'Église. Je vais prêcher sur Romains chapitre 1. Nous sommes en train de parcourir, enfin on a commencé, c'était énorme, épître, lettre de Paul, Romain. Donc j'ai voulu prêcher ça depuis longtemps. Et voilà, l'occasion commence. C'est monumental et on a besoin de prier pour commencer. Quelle lettre, Seigneur. Quelle énorme lettre. Et je prie, Seigneur, que tu prends ce que je vais dire et tu parles à travers mes paroles. Tu parles à travers cette épître aux Romains. Seigneur, on a besoin d'entendre ta voix à travers ta parole. Amen. Comment est-ce que ça fonctionne? Quand j'étais petit, moi j'avais l'habitude de démonter tout pour connaître comment ça marche. Il y avait un problème pour remettre les choses après, mais voilà, je voulais savoir comment ça marche. Et mes parents, chaque fois qu'ils me donnaient un jouet, ils constataient que je démonte. Le 28 septembre 1928, Alexandre Fleming rentre de ses vacances pour observer que la moisissure s'est multipliée dans une boîte de pétri pendant son absence. En plus, une culture de bactéries ne poussait pas du près de la moisissure. C'était une découverte phénoménale de la pénicilline qui a pu sauver des milliers et des milliers de vies par la suite. Je commence avec cette histoire parce qu'elle illustre que dans le domaine de la médecine, la compréhension est vitale. Ça peut être vrai pour la foi. Tout le monde a la foi. Nous croyons en tas de choses. Je crois que l'échelle qui m'amène aux cheminées de la maison pour la réparer peut tenir mon poids. Sauf que j'ai tombé d'une échelle deux fois maintenant et je n'ai plus confiance en moi-même. Je crois que les freins de la voiture peuvent m'arrêter avant un accident. Je crois que l'ascenseur au grand home à Binche peut m'amener chez notre amie Josette. La dernière fois que j'avais les doutes, parce qu'effectivement, il faisait un drôle de bruit. Je peux croire dans ces choses avec une certaine logique. Dans un sens, la question, comment est-ce que ça fonctionne, est aussi valide dans le domaine de la foi. Savoir en quoi on met la foi est essentiel. Connaître comment ça fonctionne est vital. La Bible ne demande jamais d'éteindre le cerveau. C'est pour cela que la Bible passe pas mal de temps à expliquer le comment. C'est peut-être particulièrement vrai pour la lettre de Paul aux Romains. Martin Luther a trouvé un déclic formidable dans la lecture de la lettre aux Romains. De même pour Wesley, quand il lisait l'introduction de commentaire de Luther sur Romains. L'année passée à Binche, on a terminé une série de prédications dans l'évangile de Marc. On a pu voir la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'était enrichissant de tracer la vie de Jésus et de l'appliquer à nos vies. Mais comment est-ce que ça marche pour ma foi? L'apôtre Paul va nous aider avec ses explications monumentales. Cette lettre est chargée de l'humanité, plus qu'on ne pense, chargée de comment. Je vais lire alors. Lisons Romains chapitre 1. Je lis dans la version Semeur. Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, qui a été appelé à être apôtre et choisi pour proclamer l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle que Dieu avait promise par ses prophètes dans les saintes écritures. Elle parle de son fils qui, dans son humanité, descend de David et qui a été institué fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener en son nom des hommes de tous les peuples à lui obéir en croyant. Vous êtes de ceux-là, vous que Jésus-Christ a appelé à lui. Je vous écris à vous tous qui êtes à Rome, les bien-aimés de Dieu et qui ont été appelés à faire partie du peuple saint. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Dieu m'en est témoin. Lui que je sers de tout mon être en proclamant l'évangile qui concerne son Fils dans toutes mes prières, je ne cesse de faire mention de vous à toute occasion et je lui demande de me donner enfin l'occasion de vous rendre visite si telle est sa volonté. Car j'ai le vif désir d'aller vous voir pour vous transmettre quelques dons de la grâce par l'Esprit en vous d'affermir votre foi, au mieux pour que lorsque je serai parmi vous, nous nous encouragions mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est commune. J'y tiens à ce que vous le sachiez, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet de me rendre chez vous afin de récolter quelques fruits parmi vous, comme je l'ai fait parmi bien d'autres peuples. Mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. Je me dois à tous, les non-juifs civilisés aux noms, instruits aux ignorants. Voilà pourquoi je désire aussi vous annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs en premier lieu, et aussi les non-Juifs. En effet, cet Évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi, et rien que par la foi, comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra grâce à la foi. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu ce matin. En lisant ces versets, je vois que Paul a été radicalement changé par quelque chose. Oui, nous savons que c'était une rencontre bouleversante avec Jésus-Christ sur la route vers Damas. Il a été même aveuglé quelques jours pendant qu'il repense toute sa théologie. Ici, il se décrit comme serviteur de Jésus-Christ. Dans l'original, c'est littéralement esclave de Jésus-Christ. Un esclave n'a plus de droits. C'est le maître qui a tous les droits. Et il travaille comme un fou pour son maître. Ça, en soi, décrit l'énorme changement dans sa vie, dans la vie de Paul. Effectivement, dans ce passage, Paul décrit le grand changement dans sa vie par un mot, l'Évangile, la bonne nouvelle. Paul dit que son job maintenant, c'est proclamer l'Évangile de Dieu, la bonne nouvelle. Voyons ça, verset 1, si vous avez toujours votre Bible. Ça, c'est son occupation, son préoccupation. Proclamer l'Évangile de Dieu, la bonne nouvelle. Il a une vive désir d'aller voir les Romains, verset 11. Et pourquoi, verset 15? Pour transmettre quelques dons de la grâce par l'Esprit en vue d'affermir votre foi. Sûrement de partager l'Évangile, la bonne nouvelle. Voyons ça, verset 15. Voilà pourquoi je désire aussi vous annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Et puis verset 16, il explique pourquoi l'Évangile est tellement important. Il dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Alors Paul est radicalement changé par l'Évangile et il est radicalement changé pour proclamer l'Évangile. Voyons ce changement dans sa vie. Et c'est qu'on réalise l'importance de ce petit mot. Est-ce qu'on réalise l'importance de ce mot Évangile? Imaginons un smartphone sans système d'exploitation ni d'application. Il serait bon à rien. Le voici. Hein? Allez, non, absolument rien. Il est mort. Il sert à quoi? Un presse-papier, un peu triste. Il faut un système d'exploitation et des applications pour qu'il serve à toutes les fonctions pour lesquelles il est créé. L'Évangile est la bonne nouvelle. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. C'est le message de la vie, le système d'exploitation sans lequel on est mort. C'est l'application de la vie de Paul qui a tout changé. C'est la puissance de Dieu dans sa vie et dans la vie de tous ceux qui croient qui change tout. Voyons encore comment Paul a été changé. On va relire quelques versets pour voir un peu l'effet de l'Évangile dans sa vie. Qu'est-ce que ça a changé? Pensons à Saul. Saul, le terroriste, le persécuteur violent. Voyons comment il vit pour l'Évangile maintenant. Ne fût-ce que de voir l'amour qu'il a pour les Romains. Dans la plupart, il n'a jamais rencontré. Verset 11. Écoutons, j'ai le vif désir d'aller vous voir pour vous transmettre quelques dons de la grâce par l'Esprit en vue d'affermir votre foi. Ou mieux pour que, lorsque je serai parmi vous, nous nous encouragions mutuellement vous et moi, par la foi qui nous est commune. Je tiens à ce que vous le sachiez, frères et sœurs, j'ai souvent formé le projet de me rendre chez vous, afin de récolter quelques fruits parmi vous, comme je l'ai fait parmi bien d'autres peuples. Mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. Je me dois à tous, les non-juifs civilisés ou non instruits ou ignorants. Voilà pourquoi je désire aussi vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome. Sentant l'amour qu'il a, ces gens-là, la plupart, ils n'ont jamais rencontré. Ses amis, même les amis futurs, ils les aiment déjà. Paul, le persécuteur de l'Église, est radicalement transformé par l'Évangile. Il sait que l'Évangile est la puissance de Dieu. Il veut absolument annoncer à Rome, et encore au-delà, il veut aller effectivement en Espagne, et pas pour les vacances, mais pour proclamer l'Évangile. D'accord, l'Évangile transforme, l'Évangile sauve, l'Évangile donne la vie, l'Évangile est vital. Alors dis-moi, c'est quoi le message de cet Évangile si important? Si le message est la puissance de Dieu qui donne la vie et qui transforme si radicalement, dis-moi ce que c'est, s'il te plaît. C'est si important que Paul va prendre 16 chapitres pour l'expliquer. Cependant, heureusement, il nous donne quelques éléments formidables déjà dans ce premier chapitre. Voyons encore. D'abord, verset 1, l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle, est déjà visible dans les prophètes de l'Ancien Testament, verset 2. Ça, c'est vachement important. On va y revenir. Verset 3, c'est centré sur Jésus-Christ. Tout à propos de Jésus-Christ, de son humanité, de sa divinité, de sa mort et de sa résurrection. Voyons ça dans le texte. Tout centré sur Jésus-Christ, notre Seigneur. Ok, bon, c'est tout ce que nous aurions pu voir dans l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Une lecture des évangiles, on voit tout ça. Jésus-Christ, homme, Dieu, est ressuscité par la puissance de Dieu, l'Esprit Saint. Jésus-Christ est absolument central à notre foi. Notre foi est placée en personne d'autre. Et puis, voyons, on est toujours en train de chercher qu'est-ce que c'est l'Évangile. Regardons la conclusion, le sommaire, au verset 17. C'est considéré comme le sommaire de toute la lettre. Il récapitule effectivement ce qu'il va dire dans un seul verset. Verset 16, l'Évangile, la puissance de Dieu pour sauver. Verset 17, en effet, cet Évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi, comme il dit dans l'Écriture, le juste vivra grâce à la foi. Dieu est juste, point à la ligne. Toute justice découle de Dieu. Et Dieu va donner sa justice à nous. Waouh! Dans la pensée hébraïque de la justice, c'est un concept juridique, légal, dans la pensée hébraïque. Donc, c'est le fondement, l'arrière-plan. Vous êtes en tort ou vous avez raison. l'un ou l'autre. Vous êtes en tort devant Dieu, mauvaise nouvelle, avec conséquence. Vous avez raison, bonne nouvelle, aussi avec conséquence. Mais très tôt dans la lettre, on découvre que tout être humain, tout le monde, a tort. Personne n'a raison devant Dieu. Personne n'est dans le bon. Ça va mal alors. C'est fini. Game over. Avec ma justice, j'ai tort. Est-ce possible d'avoir tort et que Dieu nous donne sa justice? Ce serait inimaginable, même scandaleux si on le pense. Imagine se balader avec la justice de Dieu. Ce serait comme le gamin qui porte un Rolex. Où est-ce que tu as trouvé ce Rolex-là? Ça, hein, voleur. Non, monsieur très gentil me l'a donné. Non, mon œil. Oui? Mais regardons la réponse. La réponse est oui. Comment? Verset 17. La justice que Dieu accorde est reçue par la foi et rien que par la foi. Oh oui, quel cadeau. Donne-la-moi, s'il te plaît. Alors comment? Par la foi. Et seulement par la foi. Rien à voir de ce que je peux accumuler mes ressources, Bezos et compagnie. Rien à voir de ce que je peux faire, mes compétences. Rien à voir de ce que les autres pensent de moi, ma popularité. La justice devant Dieu, dont on a tous besoin, n'est pas de moi. Je mentionne ces trois choses-là parce que typiquement, ce sont les trois choses en lesquelles nous avons tendance à mettre notre foi au XXIe siècle. Voyons, l'argent, qualification ou ami. Ce qu'on a, ce qu'on fait ou des likes. Mais tout cela ne compte pour rien. C'est seulement par la foi et rien que par la foi. Le juste vivra grâce à la foi. Croire en Jésus-Christ et vous serez sauvés. Alors, qu'est-ce que c'est de mettre notre foi entièrement en Jésus? Qu'est-ce que c'est? J'ai le vertige. Je n'aime pas les échelles. Quand je suis en hauteur sur une échelle, ça me prend une demi-heure pour m'habituer un peu. Hein. Je n'aime pas. Dans mes scrolling... Oh non, pas ça, l'autre. Voilà. Dans mes scrolling, oui, j'ai découvert qu'il y a une mode. Dormir d'or. OK? Non pas simplement d'or, mais attaché à une falaise. Regardons ces quelques photos. Oui. Oh. Attaché à une falaise. Oh. Wow. Ça c'est faux d'ailleurs. Hein? Ça c'est imaginé. Hein? C'est... artificielle intelligence, là c'est vrai. Imaginons ce que c'est. Oh là, merci. Hein, cela vous dit? Ça va? Hôtel, vacances? Que feriez-vous avant de dormir sur un lit attaché à une falaise? Moi, J'aimerais examiner les points d'attache. Oui, ok. Sont-ils solides? Ma vie en dépend. La justice de Dieu est reçue par la foi et rien que par la foi. Quand on met notre foi en Jésus, on met toute notre foi en Jésus. C'est comme dormir dehors attaché à une falaise. Savez-vous combien est solide l'attache Jésus-Christ? C'est plus solide même qu'une barre en métal de 20 cm de diamètre. Verset 2, c'est la bonne nouvelle que Dieu avait promise par ses prophètes dans les saintes écritures. Ça. Et si c'est la bonne nouvelle promise par dans l'écriture, il n'y a rien de plus solide, rien de plus fiable, rien de plus inébranlable. Mettons notre foi dans l'évangile de Dieu. Mettons notre foi dans toute notre foi en Jésus-Christ. Et on peut dormir attaché d'or sur nos deux oreilles. Prions. Seigneur, c'est un défi de lire ce chapitre de ta lettre aux Romains. Et je reconnais, Seigneur, le cœur de l'Évangile, ce que c'est de mettre ma foi entièrement en toi. Et Seigneur, je dis, donne-moi cette foi, Seigneur. Je dépends entièrement de toi. Je mets toute ma foi, Seigneur, toute ma foi en toi, Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je l'accueille. Merci, Seigneur, de transformer ma vie, ne fût-ce que de mettre toute ma foi en toi.